VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Ouagadougou, 14h à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique de l'Ouest. Au Burkina Faso, débat sur deux questions fondamentales. L'adoption de la nouvelle constitution et le vote des Burkinabés de l'étranger en 2020. L'opposition a été reçue jeudi par le président Roch-Marc Christian Kabore pour en discuter. Plus de détails avec le correspondant de VOA Afrique à Ouagadougou, Lamine Traoré.
L'échange a duré au moins 2 heures. L'opposition et le président du Faso ont discuté du mode d'adoption de la nouvelle constitution, soit par référendum, soit par la voie parlementaire. Rien, pour le moment, n'a été arrêté et les échanges devront se poursuivre sur cette question, surtout quand on sait que l'élection présidentielle de 2020, c'est pour bientôt. Sur le vote des Burkinabés de l'étranger en 2020, l'opposition est claire là-dessus. Zéphirin Diabré, chef de file de l'opposition.
Notre position, en tant qu'opposition politique, c'est qu'il faut finir définitivement avec les faux rendez-vous et que en 2020, il faut que les Burkinabés qui sont à l'étranger puissent voter et exprimer donc leur devoir civique.
Après l'opposition, une autre rencontre est prévue avec la majorité pour continuer d'échanger sur ces mêmes points. Une rencontre qui intervient au moment où le pays connaît une fronde sociale marquée par des grèves et des sittings de plusieurs syndicats. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Au Sénégal, adoption par les députés jeudi d'une nouvelle loi électorale à moins d'un an de la présidentielle. Une législation dénoncée par l'opposition qui fait état de dizaines d'arrestations hier lors de manifestations réprimées par la police. Des protestations interdites dans le quartier où l'Assemblée nationale procédait à ses délibérations à Dakar. Marie Benson a contacté François Patuel, chercheur sur l'Afrique de l'Ouest à Amnesty International, qui s'est exprimé sur le droit de manifester au Sénégal. On l'écoute.
Ce qui est préoccupant, c'est que les autorités ont justifié l'interdiction sur la base d'un décret qui date de 2011 et qui interdit toute manifestation dans certaines zones du centre-ville. Pour nous, c'est une interdiction qui est excessive puisque les gens devraient pouvoir manifester de manière pacifique à une distance raisonnable des institutions qu'ils ciblent dans leurs manifestations.
Est-ce que vous pensez que cette interdiction est légale ?
Eh bien, pour nous, c'est une restriction qui est excessive et arbitraire. Le Sénégal peut, dans certaines situations, restreindre la liberté de rassemblement pacifique, mais il doit pour ça pouvoir le motiver sur une base légale et en fonction de critères fixés par les standards internationaux. L'interdiction pure et simple de toute manifestation dans une zone donnée, c'est excessif.
Mais il y a eu des violences aussi des deux côtés, sachant que des manifestants ont lancé des objets sur une voiture de police, je crois.
Ce que j'ai pu voir, c'est certains groupes qui essayaient de se regrouper aux alentours notamment de l'Assemblée nationale, qui était dispersé automatiquement à source de gaz lacrymogène envoyé sur des gens qui ne faisaient pas forcément partie de la manifestation. Comme la manifestation a été interdite, qu'il y avait un déploiement des forces de sécurité déjà très tôt le matin, en fait, il n'y a pas eu un endroit où il y a eu beaucoup de gens, mais plutôt une dispersion des manifestants dans toute la ville qui essayaient de se regrouper. Et du coup, il était difficile de pouvoir identifier un lieu de manifestation et les forces de sécurité utilisaient dès qu'il y avait un petit attroupement à un coin de rue, des gaz lacrymogènes. Peut-être juste pour mentionner qu'il y a également eu au moins 5 arrestations, 3 militants de l'opposition qui ont été arrêtés et 2 membres du groupe Yamamar qui ont été arrêtés. Donc voilà, en plus de l'utilisation de la force pour empêcher les manifestations, il y a également eu plusieurs arrestations. On essaye de mieux comprendre un petit peu les conditions de ces arrestations et ce qui les a motivés.
François Patuel, chercheur sur l'Afrique de l'Ouest à Amnesty International, joint à Dakar, au Sénégal. Afrique de l'Ouest toujours, un ancien chef de guerre libérien immigré aux États-Unis après avoir caché son passé meurtrier dans son pays a été condamné jeudi à 30 ans de prison à Philadelphie. Un verdict lié à la guerre civile au Libéria de 1989 à 2003. Mohamed Diabaté, alias Jungle Jabba, n'avait rien dit de ses activités entre 1992 et 1995, lorsqu'il commandait la faction United Liberation Movement of Liberia for Democracy, ULIMO, perpétrant meurtres, viols, esclavage sexuel, mutilations, selon les procureurs américains. Arrêté en mars 2016, Mohamed Diabaté n'a pas été directement inculpé pour ses crimes, mais lors du procès, l'accusation a cité à la barre 17 Libériens pour témoigner des atrocités de Diabaté et de ses hommes.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Burundi, le président burundais Pierre Nkurunziza a procédé à un remaniement ministériel qui a vu notamment le départ de son chef de la diplomatie et le maintien à leur poste des ministres chargés de superviser le référendum constitutionnel très controversé prévu le 17 mai. Les détails avec Anne Albertson.
Quatre ministres quittent le gouvernement et cinq autres y font leur entrée, l'équipe passant de 20 à 21 ministres. La principale victime de ce remaniement est le chef de la diplomatie burundaise, Alain-Aimé Nyamitwe, en poste depuis mai 2015, juste après le début de la crise burundaise en avril 2015, et frère du responsable de la communication présidentielle, Willy Nyamitwe. Il est remplacé par Ezekiel Nibiyira, ancien ambassadeur au Kenya et ancien patron des Imbonerakure, la controversée Ligue des jeunes du parti CNDD-FDD au pouvoir, qualifiée de milice par l'ONU. Les autres poids lourds du gouvernement restent, eux, en place, notamment le ministre de la Sécurité publique et de la gestion des catastrophes, le général Alain-Guillaume Bunyoni, véritable numéro 2 du régime burundais, mais aussi celui de l'intérieur, Pascal Barandagiye, et la ministre de la Justice, Aimée Laurentine Kanyana. Le président a pris le soin de ne pas toucher aux trois ministres les plus importants en ce qui concerne l'organisation, l'administration et la sécurité du référendum prévu dans moins d'un mois qui vise à modifier la Constitution pour permettre à M. Nkurunziza de potentiellement rester au pouvoir jusqu'en 2034, a analysé un diplomate à Bujumbura.
Au Zimbabwe, l'ex-président Robert Mugabe est cité à comparaître devant le Parlement le 9 mai pour s'expliquer sur la disparition de diamants d'une valeur de 15 milliards de dollars. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi le président du comité du Parlement en charge des mines et de l'énergie, Temba Mliswa, en précisant que la décision a été prise hier lors d'une réunion de ce comité. Les députés veulent interroger l'ancien chef d'État sur des propos tenus en 2016 dans lesquels il regrettait que son pays avait perdu 15 milliards de dollars de revenus diamantifères à cause de la corruption et de l'évasion des capitaux pratiqués par les compagnies minières étrangères. La commission du Parlement chargée de ce dossier a déjà sommé plusieurs anciens hauts responsables de l'administration, dont des ex-ministres et chefs de police, de venir en témoigner. Dans un rapport publié l'an dernier, l'ONG Global Witness avait accusé les dirigeants du Zimbabwe d'avoir détourné pendant des années les profits tirés de l'exploitation du diamant pour financer la répression de leurs adversaires politiques. Afrique du Sud, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a quitté précipitamment un sommet du Commonwealth à Londres pour se rendre ce vendredi dans le nord-ouest de son pays en proie à de violentes manifestations contre la corruption et le manque de services publics. Peu avant l'arrivée de M. Ramaphosa à Mahikeng, le chef-lieu de la province du Nord-Ouest, épicentre des incidents, la police a fait usage de balles en caoutchouc ce matin pour tenter de disperser plusieurs dizaines de manifestants. Le chef de l'État a appelé au calme et au respect des lois dans la province, selon un communiqué de la présidence. Cyril Ramaphosa a demandé à la population d'exprimer ses revendications par des moyens pacifiques plutôt que par la violence et l'anarchie, tout en exigeant de la police qu'elle fasse preuve de la plus grande retenue dans l'exercice de ses fonctions. Conflit en Syrie maintenant, le Pentagone estime que le régime du président syrien Bachar al-Assad conserve des capacités militaires chimiques résiduelles et pourrait encore lancer des attaques limitées avec des armes chimiques. Et ce, malgré les frappes occidentales du week-end dernier. Plus de détails avec Abdourahmane Dia.
La déclaration est d'un haut responsable du ministère américain de la Défense. Selon le général Kenneth McKenzie, le régime syrien a probablement disséminé dans tout le pays et sur divers sites des capacités chimiques lui permettant de lancer d'autres attaques. Mais il prévient Damas. Nous les surveillons et nous avons la capacité de les frapper à nouveau si nécessaire. Le 14 avril, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni ont bombardé trois sites présentés comme liés au programme d'armement chimique syrien sans faire de victimes. Des frappes lancées en représailles à une attaque chimique présumée ayant fait au moins 40 morts le 7 avril à Douma, dans la banlieue de Damas. Toutefois, le général McKenzie n'a pas pu affirmer que les trois sites abritaient bien des armes chimiques. Nos conclusions sont que les armes ont atteint leur cible. Nous avons atteint le degré de succès désiré contre ces trois cibles et nous pensons qu'il y avait probablement du chlore et peut-être du sarin et peut-être même sur les trois sites, a-t-il dit. Les images publiées par le Pentagone montrent que les trois sites ont été totalement détruits.
Et pour terminer, le président russe Vladimir Poutine est prêt à une rencontre avec son homologue américain Donald Trump. C'est ce qu'a affirmé le chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov, en précisant toutefois qu'une telle réunion n'était pas en préparation actuellement. Donald Trump a proposé à Vladimir Poutine une rencontre à la Maison-Blanche lors d'un entretien téléphonique en mars.
De l'info sur VOA Afrique.